Bonjour. Des maisons de transfert de fonds facilitent les transferts d'argent à travers le pays, du moins dans les grandes villes et là où les affaires marchent bien. Chacune de ces maisons propose un taux à ses clients. À quel prix? Le service arrive-t-il toujours à temps? Partagez votre expérience. Appelez au 081 890 68 90. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, avait octroyé des microcrédits à un groupe d'ONG à Kisangani. Le remboursement se fait après un certain délai. Il faut rembourser à terme pour espérer recevoir un nouveau crédit. Bilan et perspectives à suivre dans OKP Action. Les habitants de Kananga vivent dans une extrême pauvreté. Parmi les raisons évoquées, on cite la forte bureaucratie à Kananga et le manque d'initiatives locales. De rares initiatives s'y développent. Coup de projecteur là-dessus avec quelques-uns qui font la fierté du développement de l'ex-Louloubourg. William Lungamba est à la mise en onde, Jody Kachama à la régie, Nathalie Moteba fait la programmation musicale, Walter Maïrini Moulondi au micro.
Okapi. Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
Rebonjour. Transfert rapide et sûr. La durée de ce spot et la durée de votre transfert. C'est autant des slogans communs à la plupart des agences de transfert de fonds. Mais bien souvent, cela est loin de se traduire dans les faits, dans la réalité. Certaines agences ne sont pas toujours crédibles. On assiste parfois à des violentes scènes, des disputes au guichet de certaines agences. Toutes ces agences des transferts de fonds ne couvrent pas non plus les grandes villes congolaises. On parle de ce sujet avec Marcel Gombo. Marcel, bonjour.
Bonjour, Ether.
Vous vous êtes penché sur la question des transferts de fonds, activité particulièrement intense en cette période de fin et début d'année. On constate que cette activité attire de nouveaux opérateurs. Sont-ils tous crédibles, Marcel?
Le transfert des fonds est l'une des activités commerciales et financières qui intéressent pas mal d'opérateurs économiques. On assiste de plus en plus à la naissance d'une multitude d'agences. Mais faut se dire, Walter, c'est plutôt à celle qui, à grand coup de publicité, essaie de s'accorder un certain crédit et de gagner par la même occasion la confiance d'un grand nombre de clients qui font plus attirer un bon nombre de clients.
On peut citer Western Union, on peut citer Sophicom, MoneyGram, Mr. Cash et j'en passe, Marcel.
Walter, ce sont là des agences qui disposent de certaines facilités financières qui leur permettent d'assurer rapidement un transfert. Ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres agences où il faut parfois attendre 2 à 3 jours pour entrer en possession des fonds.
Alors cela ne peut pas manquer de causer quelques désagréments aux clients, mais Marcel, en dehors de la fiabilité, il y a un autre aspect qui est le plus important par ailleurs, c'est le taux des commissions des transferts de fonds. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques éléments là-dessus?
Tout à fait, Walter. Le taux des commissions joue un rôle très important. Pour la plupart des grandes agences, la marge des commissions se situe entre 13 à 16% pour un transfert allant de 1 à 100 dollars américains. À MoneyGram, par exemple, la commission est de 13% et à Western Union, c'est 16%.
Il faut tout de suite souligner qu'il s'agit là du réseau des transferts international. Qu'en est-il du réseau dit domestique, c'est-à-dire à l'intérieur de la RDC, de Kinshasa vers Butembo ou de Kinshasa vers Goma, par exemple?
Pour ce qui est du réseau domestique, la marge se situe généralement entre 5 et 10%. Mais il faut se dire, Walter, il y a des agences telles que Sophicom qui couvrent près de 30 villes du pays où la commission est de 3% et peut même descendre jusqu'à 1% pour un transfert à partir de 500 dollars. Pour le moment, cette agence passe pour crédible, comme le témoigne un des clients abordés après un retrait des fonds. On l'écoute.
Je suis passé juste retirer un transfert venant de Mbujimayi.
On peut savoir de combien?
Bon, c'est juste un montant insignifiant de $300. Si ce transfert a terminé, ça dépendait de moi. Parce que le transfert a eu lieu depuis la veille de fête. Bon, je n'ai pas voulu passer parce que je sais que d'habitude, ces gens-là sont pleins de gens. C'est pourquoi j'ai fait passer, je crois, 3 ou 4 jours de fête si je suis passé aujourd'hui. Et ça a été réglé dans moins de 10 minutes.
Et vous estimez qu'au niveau de Soficom, les choses se passent bien en rapport avec les transferts?
Bon, d'habitude, Soficom me fait je reçois de l'argent par Soficom. Mais généralement, ça se passe très bien. Le seul problème que c'est-à-dire la clientèle est trop grande. Ils doivent songer à désengorger leurs histoires, c'est-à-dire faire plusieurs points de paiement, de transfert. Mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. À Soficom, personnellement, je n'ai pas encore trouvé de réclamation ou des gens à se plaindre là-bas, le transfert n'a pas été juste et là, non. Ça se passe très bien.
Voilà, on vient de l'entendre, ces clients pour qui $300 c'est insignifiant, ça ne concerne que lui, mais il souhaite néanmoins que Soficom puisse désengorger ses agences, et du moins se réjouir du service rendu. Marcel, en dehors de Soficom, y a-t-il d'autres agences qui couvrent autant de villes du pays? Soficom, vous avez dit une trentaine de villes de la République démocratique du Congo, et avec un taux de commission de transfert abordable?
Oui, Walter, on pourra citer Western Union qui couvre, cette agence couvre près de 19 villes du pays et qui, à partir du 15 novembre dernier, c'est-à-dire du 15 novembre 2004, a baissé ses commissions du réseau domestique. Tenez, par exemple, pour un transfert d'un montant allant de 1 à $100 américains, la commission est de 6% plutôt que de 15% qu'il était avant.
Et voilà, c'est peut-être une bonne chose du moment que Western Union passe pour une des agences les plus crédibles aussi, Marcel.
À l'effet Walter, c'est bien cela et je vous propose de suivre l'avis d'un des clients que nous avons rencontré dans l'une des agences de Western Union.
Je pense que la philosophie que vient d'adopter la Western Union est très bonne pour les réseaux domestiques, surtout entre nous, quand il faut faire les transferts à travers le pays, c'est intéressant. Mais nous serons très contents de voir ces mêmes réductions s'appliquer sur le réseau international. Parce que comparativement aux autres maisons de messagerie, ceux-là ont la commission un peu plus bas par rapport à la Western. Nous pensons que les responsables de Western prendraient cette en compte pour que dans l'avenir, le taux soit un peu inférieur.
Vous estimez que ce rabais va être très bénéfique pour des populations à travers nos provinces?
Effectivement, ce serait bénéfique pour nos provinces et bénéfique aussi pour Western Union. Parce que c'est une grande maison, je pense qu'il pourra, n'est-ce pas, barrer la route aux petites maisons de messagerie qui pilulent à travers la ville.
Et voilà, nous aurons plus de détails tout à l'heure. Ça vous concerne, chers auditeurs. Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes lorsque vous faites un transfert de fonds ou lorsque vous devez recevoir des fonds dans une agence de transfert de fonds? Partagez votre expérience. Appelez au 081-890-6890 et le monde entier sera au courant de ce qui se passe. Il s'agit pour nous de vous rendre plutôt service. Nous ne faisons pas la publicité d'une quelconque maison de transfert de fonds, mais nous voulons rendre service à vous, auditeurs, qui êtes clients potentiels de ces maisons d'agence, question de vous mettre à l'abri d'éventuelles arnaques et que le service vous soit le mieux rendu possible. Donc, partagez cette expérience ou vos soucis ou vos inquiétudes au 081-890-6890. On se retrouve dans quelques instants. Marcel Gombo, merci beaucoup pour cet éclairage sur le fonctionnement de ces quelques agences. En attendant que les auditeurs nous appellent, au revoir.
Merci, Étienne, et au revoir.
Donc, question sur le premier magazine. Aujourd'hui, le premier sujet, je veux dire, concerne toutes ces opérations de transfert de fonds qui s'effectuent à travers la République démocratique du Congo entre la RDC et l'extérieur de notre pays. C'est ce qu'ils appellent les tarifs étrangers, internationaux, si vous voulez. En ce qui concerne les services domestiques, c'est de Kinshasa vers d'autres villes ou d'autres villes vers Kinshasa, en tout cas dans tous les sens à travers la République démocratique du Congo. Il y a des agences qui fonctionnent ici, qui couvrent une dizaine de villes, en tout cas en tête, on a noté l'agence Soficom qui couvre au moins 30 villes de la République démocratique du Congo. Je rappelle qu'il ne s'agit pas pour nous ici de faire de la publicité pour une quelconque agence, mais du seul fait que certains de nos auditeurs qui sont clients potentiels de toutes ces maisons ont besoin de savoir ce qui se passe. Nous faisons une étude comparative, question de savoir où est-ce qu'ils ont le plus d'avantages possible lorsque ils envoient de l'argent, c'est-à-dire à un taux de commission tel qu'il s'appelle, le plus bas pour eux, parce que ce serait le mieux pour toutes ces personnes qui recourraient au service des maisons de transfert de fonds. Nous allons chercher à avoir de l'expérience de ce qui se passe ailleurs à travers la République démocratique du Congo. Nous avions un accord de principe d'avoir un délégué de Western Union à la personne de M. Kena, mais apparemment son téléphone est fermé, c'est ce qu'on m'a fait entendre. Mais s'il y a un de ses amis ou de ses collègues qui peuvent le joindre, que M. Kena, qui a donné son accord de principe, puisse nous faire parvenir le message de dégager son téléphone. Nous allons essayer de chercher à savoir ce qui se passe dans le Bandundu, à Bandunduville notamment. Nous avons en ligne Michel Tumba. Michel Tumba, bonjour.
Bonjour, bonjour confrère.
Michel Tumba est journaliste, chef d'une station à Bandundu. Comment s'appelle encore votre radio, s'il vous plaît, cher confrère?
Je suis d'abord directeur provincial de l'Agence congolaise de presse et je coordonne une radio communautaire Concorde nationale Canal FM.
Voilà, cette radio, c'est une radio partenaire à la Fondation Hirondelle qui est le copartenaire aussi dans le projet Radio Okapi. Radio Okapi, comme vous le savez, disons-le en passant, c'est un projet de la Fondation Hirondelle et des Nations Unies. Et donc, cette radio Concorde de Bandundu est une des radios partenaires de la Fondation Hirondelle, donc partenaire de Radio Okapi. Alors, Michel Tumba, nous parlons de cette question des maisons des transferts de fonds. Est-ce qu'il y en a aussi à Bandundu et combien?
Oui, les maisons des transferts de fonds, elles existent bel et bien à Bandundu. Je dois d'abord dire que depuis un certain temps, comme vous le savez, dans notre pays, il n'existe plus tellement de structures classiques de transfert de fonds. Nous avons ici à Bandundu la Banque Centrale du Congo, et qui est une banque d'émission, et nous n'avons plus de banque commerciale. L'unique banque commerciale qui fonctionnait, c'était la Banque du Peuple, qui a été liquidée après être devenue la Banque du Commerce Extérieur. Alors, depuis un certain temps, les hommes d'affaires de la place n'ont plus aucune structure pour le transfert de fonds, même pour garder les fonds, ils les gardent à la maison, parce que cette unique banque commerciale ici au chef de la province a connu des difficultés et puis a été liquidée dernièrement, comme vous le savez. Alors, parallèlement, il s'est développé des structures formelles de transfert de fonds. Il y a des maisons qui existent, des maisons qui appartiennent à des privés, qui sont soit des commerçants, soit des petits hommes d'affaires émergents. Pour la ville de Bandundu, on peut compter une dizaine.
Lesquelles, par exemple?
Qui coûte, il y en a beaucoup aussi.
Oui.
Ici, à Bandundu, il y a du moins deux grandes maisons qui attirent l'attention de tout le monde. Il y a un commerçant, monsieur Max Ebenezer. C'est un jeune homme qui a terminé à l'ISP de Kikwit, plutôt à l'ISP de Bandundu, mais au lieu de travailler dans l'enseignement, il a préféré faire son commerce et il s'est bien développé. Il est parmi les plus grands commerçants de la ville. Alors,
Michel,
il a développé une structure de transfert de fonds, c'est en soi une caisse d'épargne populaire, mais toujours avec un pourcentage qu'il faut payer et qui est encore assez grand. Il faut perdre 10% des fonds transférés pour arriver à transférer des fonds. Mais l'avantage dans cette caisse d'épargne, c'est le sérieux et la rapidité. Du moins, tous les parents qui ont des enfants qui étudient à Kinshasa ou ailleurs, en tout cas, font transférer l'argent par cette caisse d'épargne populaire. Localement, les gens gardent l'argent là-bas. Et j'ai vu, avant la fête, le bureau était plein, les gens allaient et retirer quelque chose pour la fête. Il y a encore une agence qui est sérieuse, à laquelle beaucoup de gens recourent, c'est l'agence Fekha Salem. Là, c'est une agence à caractère confessionnel, parce que les propriétaires et tous ceux qui travaillent là-bas sont de l'église des frères Branham, comme on les appelle. Et cette agence a beaucoup de succursales. Il existe à Kinshasa, il existe à Inongo, il existe à Oshoué, à Nyoki, à Kikwit, à Boulungu, à Idiofa et ailleurs. Alors,
Michel Toumba,
dans cette agence Fekha Salem,
Michel Toumba,
il y a eu l'année passée le transfert des salaires de certains services ici, dont on faisait transférer par Fekha Salem, le salaire des agents de l'État. Et jusque-là, on n'a jamais enregistré des pertes ou des poursuites au niveau de la justice.
Michel Toumba, Michel Toumba.
Parmi une dizaine qui existe ici dans la ville de Bandundu, qui assure comme il se doit le transfert de fonds, faute des structures classiques qui devaient travailler dans ces domaines. Jusque-là, à vous.
Voilà, Michel Toumba, donc si on peut se mettre d'accord sur le principe de cet échange, quand vous racontez tout ça d'un trait, ça fait tellement long pour nos auditeurs à entendre. Hein. Ce qui serait intéressant, c'est que si vous arrivez à un point d'une situation, vous mettez carrément une pause, ça me permet de vous relancer pour une bonne compréhension avec nos auditeurs. Ce que je vais vous demander, parce que vous avez évoqué une autre question de ce qui se passe principalement à Kikwit. Si on transfère de fonds, ça se passe à travers la RDC. Nous sommes en train de vivre une expérience, d'apprendre, si vous voulez, ce qui se passe dans la province du Bandundu. On n'en parle pas souvent, nous avons la chance de le faire aujourd'hui. Michel Toumba, vous êtes toujours en ligne?
Je suis en ligne, je vous écoute.
Alors, dites-nous, en ce qui concerne la même expérience à Kikwit, vous nous avez parlé de Kikwit, vous nous avez dit qu'il y a un peu plus d'agences de transfert de fonds à Kikwit qu'à Bandunduville. Comment ça se passe à Kikwit? Qui sont les opérateurs? Quel est le taux de commissions de transfert?
Bien, à Kikwit, que ce soit à Kikwit ou à Bandundu, c'est le même principe. Il y a des privés qui ont monter des structures de transfert de fonds, et c'est toujours, il faut payer 10% pour arriver à transférer les fonds à l'endroit de destination.
Alors, dites-nous, Michel, c'est encore notre ami, l'ancien de l'ISP Bandundu, qui est toujours aussi présent à Kikwit, où il y a aussi des confessions religieuses ou des églises comme les Branhamis qui sont aussi opérationnels à Kikwit.
Oui, notre ami Max Ebenezer, qui a terminé à l'ISP et qui s'est lancé dans les commerces et qui réussit bien, qui couvre la grande partie de la province, qui quitte Bandundu et les districts de Bandundu. Pour les amis qui sont dans la religion jusqu'ici, à part les quêtes d'épargne qui existent pour l'Église catholique ne fait pas de transfert de fonds. Mais je peux signaler l'agence Fekha Salem, qui est installée ici au chef-lieu de la province, et qui a des agences à Inongo, à Oshoué, à Nyoki, à Kikwit et à Boulongo, un peu partout ailleurs, qui assure ces transferts de fonds d'une façon correcte aussi. L'agence Fekha Salem appartient à des gens qui prient chez les branhamistes.
Alors, Michel Toumba, lorsque vous observez tout cet engouement, on sait très bien qu'il y a un moment, c'était plutôt des maisons des folies qui faisaient office des transferts des fonds avant qu'on assiste à la naissance des agences comme Western Union, Soficom et les autres. Est-ce que les agences des folies continuent à faire ce même travail, notamment à Bandundu?
Effectivement, vous avez raison. Au début, c'était les agences des folies qui faisait ce travail. Mais depuis l'année passée, la province de Bandundu a été connectée au réseau de Vodacom et de Celtel. En tout cas, toutes les agences de fournis ont vu leurs chances diminuer sensiblement. Alors, ils ont développé plus le secteur de transfert de fonds, qui n'est plus tellement lié aux agences de fournis. Maintenant, il y a des maisons qui se présentent comme telles, comme agences de transfert, et qui font ce travail-là. Le rôle de FONI a sensiblement diminué et tend même à disparaître avec la sortie de téléphones cellulaires.
Ça va être ma dernière question, cher confrère. On sait très bien que vers la fin de l'année ou en début de l'année, il y a une forte fréquentation de ces maisons de transfert de fonds. Est-ce que vous avez observé le même engouement à Bandundouville?
Oui, il y a eu un engouement terrible à partir de la fête de la nativité jusqu'à la fête des Nouvel An. Parce que ici, il y a Monsieur Max Ebenezer qui, en plus de maisons de transfert, a créé une caisse d'épargne populaire. Je ne vois plus exactement le nom de cette caisse, mais c'est une caisse d'épargne populaire où les gens, la population, les paysans vont garder, vont épargner leur avoir et retirer le moment venu ce dont ils ont besoin. Alors il y a eu un engouement terrible avant la fête pour retirer quelque chose et acheter quelque chose pour la famille et pour fêter le nouvel an. En tout cas, même après la fête, j'étais là il y a 3 jours, il était difficile d'entrer parce que c'était plein de plus de 500 personnes dans une petite maison, et c'était terrible. Je me suis rendu compte que cette caisse d'épargne est quand même importante et assure le fonction de la caisse d'épargne à l'époque qu'on appelait Cadeco ou Cadeza.
Peut-être Michel Toumba, avez-vous parlé avec quelques clients? Est-ce qu'ils apprécient le service? Est-ce qu'ils ne réclament pas, surtout par rapport au taux des commissions qui est de 10%?
Parce que il n'y a que ça comme moyen, on n'a plus de choix. On y va, on agit. Mais quant à savoir si c'est plein ou pas, je ne sais pas grand-chose. La tendance étant que 10%, c'est quand même trop d'argent. Si on veut envoyer 5000 francs, et c'est en soit le destinataire n'a que 4500 parce que 500 francs restent. Mm-hmm. La tendance de la population est qu'un jour, ce taux puisse baisser à 5, voire à 4%, pourquoi pas.
Voilà, Michel Toumba, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes, que vous dirigez l'agence congolaise de presse pour la province du Bandundu, que vous êtes aussi coordonnateur, chef de station de Concorde FM à Bandundu, que cette radio est partenaire à Radio Okapi. Merci beaucoup de nous avoir fourni toutes ces informations et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour nous faire part d'autre réalité de la vie quotidienne à Bandunduville et dans la province de Bandundu. Le mois de janvier n'est pas encore fini. J'en profite, cher confrère Michel Toumba, pour vous souhaiter meilleurs vœux 2005 et que tous vos vœux se réalisent.
Je vous remercie et je suis à votre entière disposition.
Merci beaucoup, Michel Toumba.
À vous, autant.
Nous restons encore dans ce sujet qui concerne le service des transferts de fonds. Vous avez entendu tout à l'heure notre confrère de Bandundu, Michel Toumba, qui nous parlait de certaines agences qui commencent à naître. Et là, pour un transfert à l'intérieur du pays, c'est déjà 10%. Ils n'ont pas le choix, les clients, parce que ce ne sont que ça, les seules agences qui fonctionnent par là. Nous avons la chance de recevoir M. Kena. M. Kena, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes le responsable de Western Union pour l'UBC, Union des banques congolaises. Mm-hmm. Le service de transfert de fonds en soi à lui-même, l'explication du concept, qu'est-ce que vous pensez rendre service à vos clients? Quel service rendez-vous à vos clients?
Comme vous l'avez bien souligné, je suis responsable de Western Union, à l'Union des banques congolaises. Selon moi, ou selon nous, Western Union, c'est un produit de portée sociale. Mm. Si je dis un produit de portée sociale, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a deux parents, deux frères et amis qui se trouvent à l'extérieur, mais qui viennent, n'est-ce pas, aux besoins de ceux qui sont restés au pays, à leur envoyer quelque chose. Et pour faciliter ces tâches, il y a le service Western Union. Donc, nous sommes en train de rendre un service à la population. Donc, vous comprenez que Western Union, c'est un produit vraiment de portée sociale.
Mais à ce moment-là, on sait que depuis longtemps, ce sont les banques qui il y a certaines banques, une certaine catégorie des banques qui jouent ce rôle.
Ben, c'est vraiment des catégories de clients différents. Mm. Vraiment, c'est des types différents de clientèle, dans le sens que dans les banques, vous trouverez des commerçants, des gens qui font de grands mouvements et ils les font d'une manière répétitive. Mm-hmm. Mais en ce qui concerne le transfert d'argent via, par exemple, Western Union, Ce sont des gens qui viennent pas régulièrement, mais quand même une opération une fois par an ou une fois par 6 mois. Donc c'est quelque chose d'occasionnel. Donc ce sont deux clients très très différents.
Et quel est le montant minimum, par exemple, que quelqu'un peut envoyer par chez vous?
Parce que nous parlons de transfert domestique, on ne va pas de mouvement, c'est vraiment à l'intérieur du pays. Tout ce qu'ils peuvent envoyer, mm-hmm. nous sommes disposés à les servir.
Au minimum, combien par exemple?
En tout cas, nous, si nous n'avons pas de minimum, tout ce que vous pouvez envoyer, mm-hmm. nous pouvons vous aider au niveau local. Donc, quelqu'un qui va envoyer 10 dollars d'ici à Beni, à Butembo, nous allons accepter parce que nous devons rendre service à la population.
Alors, supposons que je veuille envoyer 10 dollars à Beni ou à Butembo. Et là, qu'est-ce que je vais payer comme taux de transfert?
En fait, le tarif est dans toutes nos agences, c'est affiché. Pour ceux-là qui veulent en voir, ils peuvent vraiment visiter nos bureaux et se rendre compte du tarif domestique. Bon, et l'application maintenant.
Oui, j'ai ce tarif-là, par exemple, de 0 à 100 dollars, c'est 6 dollars américains.
Oui, oui.
Alors, donc si j'envoie... Si j'envoie 10 dollars, il faut que je paye 16 dollars.
Donc ça, c'est le minimum, bien entendu. C'est
oui.
le minimum.
Oui, je parle du minimum.
Tranche-là. Donc, dans la tranche, 0 à 100, oui. vous avez ce montant que vous venez de communiquer.
Donc, si j'envoie 100 dollars, je vais payer 6 dollars.
Effectivement.
OK. Et si j'ai le plus gros montant, c'est la dernière fourchette, c'est de 4 500 à 5 000 dollars. On paye 220 dollars pour ce transfert.
Vous comprenez que... C'est mort concurrence, surtout la qualité des services que nous rendons à la population et les tarifs que vous voyez, vous trouverez que vraiment il y a un rapport qualité-service prix.
Alors, dites-nous, M. Kenar, quelle est la durée du transfert? Lorsque je vais ici à votre agence de l'UBC, derrière nos studios d'ailleurs, c'est pas loin. Alors, le temps que ma mère, qui est à Butembo, ait l'argent, il faudra combien?
En fait, il faut parler de quelques minutes. Parce que si je dois vous dire que ça ne peut pas vraiment... Si vous voulez envoyer l'argent tout de suite, vous êtes dans une agence Western Union, vous voulez envoyer l'argent à Beni, peut-être hormis le temps que vous allez mettre pour remplir votre formulaire, donc vous déposez l'argent au guichet, dans quelques minutes, 2, 3, 4, 5 minutes au maximum, l'agent se trouve déjà bien.
Disponible.
Très disponible.
Si ma mère passe par
très
là.
Disponible. Très disponible. C'est ça même la force de Western Union. La rapidité.
Nous avons observé, M. Kenna, pendant les matchs, des grandes compétitions, il y a des publicités, il y a même des panneaux publicitaires sur les voies publiques où vous prévoyez même de remettre un kit scolaire à certains clients. Comment est-ce que vous arrivez à lier le fait que quelqu'un soit venu déposer de l'argent pour envoyer et que vous lui donnez un kit scolaire? C'était pendant la rentrée scolaire tout récemment.
C'est pour vous dire que, comme je l'ai souligné si haut, j'ai dit que Western Union est un produit de portée sociale. Donc nous savons que pendant la rentrée de classe, nous devons aussi servir cette clientèle. C'est pourquoi nous remettons un kit scolaire où il y a des bics, des cahiers, ça peut compléter, n'est-ce pas, à ceux qu'ils ont déjà acheté. Donc nous voulons aussi servir notre clientèle. C'est ça les soucis de Western Union. Et nous n'avons pas que ça. Nous, si vous allez aussi à Bangoune aujourd'hui, nous avons réfectionné une école. Si vous allez dans plusieurs domaines, surtout le domaine social, nous agissons régulièrement.
Est-ce que vous avez déjà une agence à Bangoune?
Oui, on a une agence à Bangoune actuellement.
Qui n'est pas très récente parce que...
Elle est vraiment récente.
En fait,
il y a deux agences, Western Union sont presque partout dans presque toutes nos provinces.
À peu près combien de villes de la République démocratique du Congo?
Nous avons actuellement 60 points de vente mm-hmm. dans 19 villes en République démocratique du Congo.
60 points de vente, ça veut dire
60 guichets, donc 60 agences à travers toute la République démocratique du Congo.
Quand on regarde ça, on voit qu'il y en a beaucoup plus à Kinshasa qu'ailleurs dans d'autres villes. On a juste que quelques-uns.
C'est par rapport au nombre de la population. Vous savez, Kinshasa a beaucoup de gens par rapport à une ville comme Beni, par exemple, une ville comme Kolwezi. Donc, c'est le nombre de gens par rapport à cela que nous essayons de nous implanter. Tant que il y aura beaucoup de gens dans telle ville, on ne manquera pas d'ajouter.
Nous avons appris que votre taux de transfert, notamment ces derniers temps pour les usages domestiques, c'est autour de 6%, je pense.
En fait, nous avons actuellement un tarif vraiment un tarif exemplaire, un tarif qui vaut la peine pour toute la population qui veut vraiment envoyer l'argent à l'intérieur du pays.
Il y a d'autres agences qui sont à 3% pour les mêmes montants. Pourquoi est-ce que Western Union, qui a un but, qui veut rendre service à caractère social, ne peut pas baisser?
Ben, ça dépend aussi de la qualité des services que nous rendons. Vous savez, d'une manière générale, ce qui est bon, ça doit seulement coûter cher, d'une manière générale. Mais notre qualité de service, notre façon de travailler, nous permet d'avoir ce tarif qui est vraiment un tarif acceptable.
Je vais demander à Willem si on peut nous retrouver la réaction de cet auditeur, de ce client que Marcel Gombo a rencontré dans une agence, Western Union, qu'on écoute ce qu'il a à dire. Et je vais demander à M. Kena de réagir à ce sujet. M. Kena, si vous pouvez mettre vos casques, on va écouter un de vos clients et vous allez entendre la demande qu'il formule à l'endroit de Western Union.
Je pense que la philosophie que vient d'adopter la Western Union est très bonne pour les réseaux domestiques, surtout entre nous, quand il faut faire les transferts à travers le pays, c'est intéressant. Mais nous serons très contents de voir ces mêmes réductions s'appliquer sur le réseau international. Parce que comparativement aux autres maisons de messagerie, ceux-là sont ont la commission un peu plus bas par rapport à la Western. Nous pensons que les responsables de Western prendraient cette en compte pour que dans l'avenir, le taux soit un peu inférieur.
Vous estimez que ce rabais va être très bénéfique pour des populations à travers nos provinces?
Effectivement, ce serait bénéfique pour nos provinces et bénéfique aussi pour Western Union. Parce que c'est une grande maison. Je pense qu'il pourra, n'est-ce pas, barrer la route aux petites maisons de messagerie qui pullulent à travers la ville.
Monsieur Kena, comment réagissez-vous à cette demande? Il souhaiterait d'abord que vous puissiez baisser aussi les taux de transfert pour les réseaux internationaux.
Ce que moi je peux dire, c'est que ce client vient de confirmer qu'effectivement il y a une baisse sensible, n'est-ce pas, sur les tarifs domestiques. Je crois que les gens qui peut-être ne le savaient pas, c'est le moment qu'ils savent aussi que nos tarifs ont sensiblement baissé en tout ce qui concerne les transferts domestiques. C'est-à-dire, toute personne qui va envoyer l'argent de Kinshasa à Beni, Kinshasa à Bunia, à Kolwezi, à Butembo, à Bunia, à Lubumbashi, ainsi de suite, ils ont un tarif vraiment réduit et ils n'ont qu'à profiter de cette occasion pour vraiment transférer leur argent dans toute... En fait, en toute sécurité, ce que je vais dire, en toute sécurité et en toute rapidité, bien entendu.
Et par rapport au réseau international, c'est la demande qu'il a adressée que vous puissiez baisser aussi?
Ben, notre tarif n'est pas cher comme il sous-entend. Notre tarif est vraiment très intéressant parce qu'il fallait aussi se rendre compte. Ils ne nous l'ont jamais consulté, qu'ils viennent voir à nos guichets, c'est voir la proportion convient vraiment.
Alors, nous sommes écoutés partout dans le monde, sur Internet, en direct et aussi à travers la RDC. Voici un auditeur de Isiro qui pose la question, une question simple. Il s'appelle Massou Ali. Pourquoi Western Union n'a pas d'agence à Isiro?
En tout cas, cet auditeur doit se tranquilliser. Parce que peut-être il ne sait pas, il y a l'agence l'Union de Banque Congolaise se trouve à Isiro. Je crois que dans le meilleur délai, quand toutes les conditions seront réunies, il y aura une agence Western Union dans ce coin de la République démocratique du Congo.
C'est la même préoccupation de l'ingénieur Chrétien, il s'appelle Chrétien, celui-là, enfin, qui vient de nous appeler de Mahagi. C'est la même demande qu'ils ont des difficultés en Ituri. Est-ce que Western Union pourra ouvrir une extension à Mahagi pour faciliter certains transferts des fonds? Parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup d'activités commerciales de ce côté-là.
Ben, on s'est déjà approché. À Ituri, on est déjà présent dans le district d'Ituri parce que récemment, nous venons d'ouvrir une agence à Bunia. On espère que dans l'avenir, on pourra passer aussi à Mahagi et autres.
Et voilà, Monsieur Kena, je rappelle aux auditeurs que vous êtes le responsable de l'agence Western Union à l'Union des banques congolaises, UBC. Je vous remercie d'être venu parler de ce programme. C'était pas facile pour vous parce qu'il y a cet aspect publicitaire qu'on devait éviter, évidemment. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était plutôt le caractère social pour les clients, pour les auditeurs qui sont nombreux à nous poser des questions, peut-être un commentaire à votre niveau.
En fait, s'il y a un petit commentaire à faire, c'est que nous avons ouvert actuellement, en République démocratique du Congo, 60 points de vente ou 60 agences Western Union dans 19 villes. Donc, je peux citer quelques-unes. Nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Kolwezi, nous sommes à Moniditu, nous sommes à Mbujimayi, nous sommes à Boma, nous sommes à Beni, Butembo, Bunia, nous sommes à Kisangani, à Bukavu, à Goma, à Kinshasa ici. Il y a plusieurs agences Western Union et nous espérons que nous sommes en train de servir n'est-ce pas, notre clientèle qui doit être vraiment satisfait de tout ce que nous sommes en train de faire.
Au demeurant, la demande de certains de vos clients, c'est que vous puissiez encore baisser le taux de transfert parce qu'il y a deux agences, notamment une agence qui couvre une trentaine de villes, c'est Soficom, qu'il faut citer par exemple, qui est à 3% pour les transferts domestiques. Sans commentaire de votre part, ça ne dépend pas de vous à décider du tout. Évidemment, il faut décider plus haut en conseil. Merci quand même d'être venu répondre à toutes nos questions. Et nos amis de Mahagui et des Isiro qui vous attendent impatiemment parce qu'ils ont entendu parler de vous. J'ai même d'ailleurs rencontré hier un opérateur économique des Isiro qui m'a posé la même question et Massouali a reposé la question. Vous y avez répondu. Et Kena, bonne année, je vous les souhaite parce qu'on est encore dans la semaine, le mois des vœux, que vous puissiez réussir tout ce que vous avez rêvé de faire cette année.
Je vous remercie.
Merci beaucoup. Peut-être une dernière question, Kena, à un auditeur des Gbadolité. Est-ce qu'il existe une agence Western Union parce qu'il y a aussi des difficultés de transfert de fonds pour Gbado, monsieur Kena?
Ben, nous sommes déjà à Bandaka, c'est à quelques... je crois quelques kilomètres de Gbadolité. Donc on est en train de s'approcher.
On y pense en tout cas.
On y pense pour couvrir vraiment toute la République démocratique du Congo avec ses produits Western.
Bien, merci. À bientôt, M. Kena. Pour la deuxième partie de Okapi Action, nous allons nous rendre à Kananga et ensuite à d'autres villes comme Kisangani, évidemment. Ce ne sera pas pour parler de la rencontre avec les généraux, mais non, plutôt pour aller à la rencontre de trois ONG qui ont reçu, en début de mois de l'année 2004, un financement, un microcrédit du PNUD. À la fin de l'année, chacune de ces ONG devait rembourser les fonds octroyés pour pouvoir bénéficier d'un nouveau financement. Comment cela s'est-il passé? Toutes les ONG ont-elles remboursé, oui ou non? On le saura tout à l'heure. Nous revoici pour la seconde partie du magazine Okapi Action. Nous allons nous rendre sous d'autres cieux à travers la République démocratique du Congo. Question de vous faire vivre par la voie des ondes des réalités qui se passent, qui se déroulent. Nous sommes en 2005, nous sommes le 6 janvier 2005 aujourd'hui. On est dans la première semaine de l'année et nous sommes en train de voir ce que XY peut faire pour mieux affronter l'année 2005. En tout cas, c'est le cas pour certaines ONG qui ont eu un satisfait, une bonne note, si vous voulez, par rapport à un programme de microcrédit qui leur a été octroyé par le PNUD.
Okapi. Okapi à Kisangani sur 94.8 FM.
Merci de nous écouter à Kisangani Boyoma, Singamwambe, comme on dit, de temps en temps, très gentiment, avec un clin d'œil à tous ceux qui nous y écoutent. Le PNUD a octroyé des crédits à trois ONG de la ville de Kisangani. Ces ONG sont la coopérative pour la promotion de l'épargne et du crédit, COPECA en sigle, APILAF, une plateforme de développement, et le bureau diocésain de développement BDD. Toutes ces ONG ont reçu un fonds en 2004, au début de l'année, et elle devrait en principe rembourser l'argent le 31 décembre 2004. Nous allons faire le point sur le remboursement du crédit avec notre consoeur sur place à Kisangani, que nous joignons, Dorcas Kankou. Bonjour.
Bonjour Walter.
Bonne année, hein, ça fait, on s'est vu il y a un an, hein, l'année passée seulement.
Il y a une année.
Ça fait plaisir de vous réentendre en ce début d'année. Dites-nous, Dorcas, est-ce que ces ONG ont remboursé les fonds qu'elles ont perçus du PNUD?
Ben, Walter, en partie, je dirais oui. Il y a la COPECA qui avait reçu 12 600 $ de crédit pour des activités agricoles, à savoir la culture maraîchère. Et ça, c'était pour 84 bénéficiaires. La COPECA devrait donc rembourser cet argent au plus tard le 31 décembre. Pourtant, Walter, jusqu'aujourd'hui, la COPECA n'a rien remboursé au PNUD, pas un seul rond.
Dorcas Kankou, est-ce que vous savez pourquoi la COPECA n'a rien remboursé?
Ben, la COPECA dit avoir connu des difficultés liées à des perturbations climatiques. François Koïmo.
Si nous n'avons pas remboursé jusqu'à présent, c'est à cause de la situation de sécheresse que la ville a connue. Les membres ont commencé, quand ils ont eu l'argent, ils ont commencé normalement, ils ont commencé même à produire. Mais arrivé vers la fin, mi-février, il y a eu des fortes chaleurs qui arrivaient à brûler les amarantes. De manière qu'au mois de mars, nous étions obligés de suspendre les activités. Alors, ce n'est qu'au mois de septembre, qu'on a levé la mesure de suspension et les gens ont commencé, mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il y a eu de fortes pluies.
Voilà, on vient d'entendre François Koïmo expliquer qu'il s'agissait plutôt des problèmes d'ordre climatique. Comment le PNUD a-t-il apprécié ces explications? Est-ce que ces difficultés climatiques justifient-elles à elles seules le manque de performance de la COPECA, Dorcas?
Walter, pour le PNUD, en plus de ces perturbations climatiques, la gestion financière n'a pas non plus été claire.
Mais alors, ok, là c'est un cas qu'on vient d'évoquer, on aura plus de formations tout à l'heure avec un représentant du PNUD, à la personne de M. Wirba Alidou, qui est le conseiller technique principal et coordonnateur du PNUD UNOPS à l'Est, on l'aura dans la partie invitée. Peut-être qu'on aura d'autres explications sur notamment la gestion financière qui n'était pas claire, il nous dira en quoi. Mais revenons à une autre ONG d'Orcas, Apila. Quel est le montant que cette ONG a reçu du PNUD et combien a-t-elle remboursé?
Ben, APLEF avait reçu 10 000 dollars, c'était pour 94 bénéficiaires et des micro-entrepreneurs. APLEF a déjà remboursé 72% et se débat pour liquider son crédit, même si la date limite est passée. Walter, il faut souligner qu'ils ont connu des difficultés liées au manque d'électricité dans la ville. Mais dans ce même groupe, il y avait aussi des chauffeurs taxi. Eux n'ont pas connu beaucoup de difficultés parce que dans la ville de Kisangani, on a vu s'installer deux stations-service de carburant, ce qui leur a permis d'acheter à des prix abordables le carburant et faire leur travail.
Mmh. Alors finalement, donc on comprend qu'il ne leur reste que, si vous voulez, 18% du montant à rembourser. On saura avec, encore une fois, Wirba Alidou si Apilaf sera éligible pour un nouveau financement tout à l'heure avec lui. Et finalement, la troisième ONG bénéficiaire, le bureau de César de développement, quel a été son montant perçu? Est-ce que le bureau de César de développement a remboursé les fonds reçus du PNUD?
Le BDD Walter a reçu 10 810 dollars pour le crédit et c'était destiné au petit commerce. Le BDD a remboursé la totalité, soit le 100% du crédit, et c'est avant le 31 décembre comme prévu, Walter.
Ah, donc on peut comprendre que le BDD, c'est la structure qui l'emporte la palme d'or.
Oui, c'est ça.
Ça, on peut le dire, rembourser la totalité avant l'échéance, c'est un grand satisfecit. Ça, nous, on peut le dire, sans même attendre le point de vue de M. Wirba Alidou. Bien sûr qu'il nous le confirmera, mais on cherchera quand même à savoir, parce qu'on n'a pas entendu un représentant du bureau diocésain de développement nous expliquer qu'est-ce qui a fait que eux ont remboursé tout, les 100% et avant l'échéance. Quel était, si vous voulez, leur petit secret? On saura tout à l'heure, parce qu'on invitera aussi M. Jean-Pierre Loké, qui est directeur du bureau diocésain. Pour l'instant, Dorcas Kankou, merci beaucoup d'avoir donné ces informations. Nos auditeurs peuvent se rappeler qu'à mi-parcours, autour du mois de juin, nous avions fait une évaluation à mi-parcours et on s'attendait déjà à ce que le BDD soit en premier parce qu'il n'avait pas tellement de difficultés et ça se confirme à fin parcours. Dorcas Kankou, bravo pour ces informations. Je réitère mes voeux de bonheur et de succès pour vous et tous ceux qui nous suivent à Kisangani.
Merci bien, Walter.
Au revoir. Nous allons savoir tout à l'heure, le bureau diocésain de développement a eu un satisfecit, remboursement du fonds détenu à 100% et avant échéance. Pourquoi et comment? Nous avons en direct depuis Kisangani, M. Jean-Pierre Loké-Loké. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Walder.
Vous êtes directeur du bureau diocésain au niveau de l'archidiocèse de Kisangani. Vous avez remboursé 100% du crédit reçu du PNUD et avant échéance. Pouvons-nous savoir, connaître, si vous voulez, le secret de votre réussite?
Je veux vous dire, Monsieur Walter, que le crédit, nous n'avons pas commencé seulement avec PNUD, hein. Nous sommes dans les crédits depuis 2001 et c'est l'expérience de 2001 qui a fait que nous puissions réussir dans cette affaire-là.
Et oui, l'expérience de 2001, ça veut dire quoi? Quels sont les termes qui vous facilitent la réussite?
Bon, ce qui a facilité notre réussite, c'est d'abord, nous avons voulu chercher d'abord à consolider l'organisation des groupes parce que dans ces affaires de crédits, Si les groupes ne sont pas bien consolidés, si les groupes ne sont pas bien organisés, on a souvent échoué, c'est l'expérience de 2001. Et à un deuxième niveau, nous avons plus essayé de rendre notre suivi régulier. Parce que dans le premier crédit que nous avions donné, il y avait une certaine irrégularité dans le suivi et ça ne nous a pas permis de contrôler très bien ce qui s'est passé dans les groupes. Et au fait, je peux encore ajouter ceci. Ce qui a été aussi à la base de notre réussite, c'est la formation des groupes. Nous avons mis suffisamment de temps à former nos groupes et cela a aidé au groupe à comprendre ce qu'est le crédit parce qu'auparavant, ils trouvaient que le crédit pouvait ne pas être remboursé, ce n'était pas un problème. Mais après la formation, ils ont compris que le crédit, c'est vraiment une histoire de remboursable.
Dites-nous, Monsieur Jean-Pierre Loké-Loké, c'est quel type d'activité que vous avez développé au sein des différents groupes qui concernaient le bureau diocésain de développement?
Disons que nous nous sommes limités aux petits commerces. Parce que notre cible, si je peux le dire déjà, notre cible, c'est la femme. Dans le premier crédit que nous avions donné, on avait les hommes et la femme. Nous avons trouvé que les hommes n'étaient pas tellement crédibles. Nous sommes limités aux femmes. Et c'est ce qui a fait que nous puissions un peu réussir dans ces crédits-là.
Et combien de femmes étaient concernées dans ce projet?
Le projet devrait avoir... on devrait donner des crédits à plus de 160 femmes. Mais dans l'ensemble, on devait donner des crédits à 180 personnes, parmi lesquelles les hommes aussi. Mais après, nous avons donné les crédits seulement aux femmes, à 235 femmes, si je ne me trompe pas.
Monsieur Jean-Pierre Loké-Loké, quand on a 100% et qu'on arrive à temps, au bon moment, on a le record, ça ne veut pas dire que tout a marché comme sur des roulettes. Est-ce que vous n'avez pas connu quelques difficultés? Qu'est-ce que vous avez fait pour les contourner afin d'arriver à temps et réussir 100%?
Disons que nous avions connu pas mal de difficultés, il faut le dire, Walter. La première difficulté que nous avons enseignée, nous avons donné aux femmes un certain nombre d'outils de contrôle. Mais ces outils de contrôle n'étaient pas facilement mis en application pour la simple raison que ce n'était pas dans les habitudes des femmes. C'était la plus grande difficulté. Mais du moins, cela a été résolu en fin de compte par le suivi parce que chaque fois qu'on faisait le suivi, on découvrait que les femmes avaient des difficultés de remplir ces fiches-là et on les aidait à les faire. À tel point que même les femmes qui n'étaient pas en mesure de les faisaient faire par leurs enfants, par exemple.
Donc, c'est vrai, parmi les bénéficiaires, ceux qui étaient performantes et d'autres qui l'étaient moins, mais qui se faisaient assister à votre niveau et au niveau peut-être de leurs proches. C'est cela qu'on peut comprendre.
J'ai pas bien compris, Walter.
Est-ce que vous voulez nous dire qu'il y ait des femmes qui avaient des bénéficiaires qui étaient performantes, qui comprenaient la gestion, remplir les fiches, et d'autres qui ne l'étaient pas et qui devaient se faire entraider par d'autres?
C'est ce que j'ai dit, Walter. C'est-à-dire qu'il y avait des femmes qui étaient performantes et qui les faisaient très très bien. Par exemple, dans les clubs, la commune de Mangob, nous avons connu des groupes qui faisaient très bien le travail. Mais dans d'autres communes, par exemple, où les femmes ne les faisaient pas bien, ils demandaient l'intervention des autres personnes pour les faire à leur place.
En tout cas, bravo pour ce travail. Est-ce que vous avez eu la réponse du PNUD que vous allez peut-être, vous êtes éligible au prochain financement?
Bon, pas encore, mais nous attendons plutôt l'évaluation du PNUD. Je pense qu'il va se faire récemment. Nous sommes d'abord très contents du partenariat du PNUD qui nous a très bien encadrés, qui nous a bien formés. C'est là qui a été derrière la base de nos réussites, si j'ai oublié de le dire.
Mmh. Très bien, nous aurons peut-être des éléments de réponse avec Wiba Lidou que nous allons appeler dans quelques instants. Monsieur Jean-Pierre Loké-Loké, je rappelle aux auditeurs que vous êtes directeur du bureau diocésain de développement pour l'archidiocèse de Kisangani. Je vous souhaite de passer une excellente journée à Kisangani Boyoma.
Ok, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Okay,
des belles idées qui commencent, qui naissent. Jean-Pierre Loké-Loké vient de le confirmer. D'abord, il a remercié le PNUD pour ce partenariat. C'est un bon partenaire. Heureusement pour le bureau diocésain de développement qu'ils ont réussi, en tout cas, à rembourser la totalité du crédit reçu en début de 2004. Ils l'ont remboursé avant le 31 décembre 2004. Ils attendent l'évaluation du PNUD pour savoir s'ils seront éligibles au prochain financement ou pas. Mais d'emblée, ils partent avec beaucoup de chance. Ils sont favoris. L'autre ONG qui s'appelle... comment voulez-vous, Apilaf, qui avait reçu 10 000 dollars pour 94 bénéficiaires. Et cette ONG a déjà remboursé 72% de fonds perçus. On cherchera à savoir. Ils sont en train de chercher à liquider le reste. Donc les 28% restants, on saura tout à l'heure avec Wirba Alidou quelles seront les conditions d'éligibilité au nouveau programme. Monsieur Wirba Alidou, bonjour.
Oui.
Bonjour. Wirba Alidou.
Oui, bonjour, c'est Wirba Alidou.
Alors, vous êtes conseiller technique principal et coordonnateur du PNUD UNOPS pour l'Est de la République démocratique du Congo. Nous parlons des microcrédits qui ont été octroyés à certaines ONG opérant à Kisangani, notamment le bureau diocésain de développement, la COPECA et APILAF. La première question que nous vous posons, quel bilan faites-vous personnellement de cette activité de l'octroi des microcrédits pour les trois ONG à Kisangani?
Oui, merci beaucoup de notre côté pour les activités de microcrédit dans la province orientale, principalement dans la ville de Kisangani. C'était la première expérience qu'on a essayé de répliquer sur base des acquis qu'on a essayé de monter au niveau de Goma et sud Kivu. Et je pense que le bilan est positif, malgré que certaines de ces associations ont connu des difficultés, mais compte tenu que c'était une première expérience, il faut aussi à utiliser par nous et aussi de nouveau. Il y a d'autres avis qui sont comment dire positifs, mais il reste beaucoup à faire pour améliorer.
Beaucoup de choses restent à améliorer, mais des trois ONG, par exemple, le bureau diocésain de développement, nous avons appris qu'ils ont remboursé la totalité du crédit reçu, et c'était même avant le 31 décembre. Est-ce que le bureau diocésain de développement sera éligible pour un nouveau financement, à votre avis?
Oui, vous avez le BDT, le bureau de développement diocésain, et vous avez application de la fonction des infrastructures et coopératives des banques et des crédits. La philosophie utilisée par le projet de l'UNOPS, c'est que les ONG qui ont monté une forte capacité de gérer le fonds de crédit, ainsi que les activités qui ont donné un impact sur les bénéficiaires, ça sera mieux à encourager cette activité, à la continuation de cette activité. Donc, pour le cas de BDD, nous sommes prêts à continuer les activités pour renforcer les capacités soit de gestion ou aussi pour le nouveau à bénéficier des actions des COPEC.
Mais qu'allez-vous faire de la COPECA qui n'a rien remboursé jusque-là?
Bon, pour COPECA a connu quelques difficultés liées aux perturbations saisonnières parce que chacun de ces ONG avait choisi un domaine différent. Le BDD avait choisi micro-activité, micro-commerce et APILAV avait choisi appuyer le secteur artisanal, tandis que COPECA a utilisé l'agriculture. Mais ils ont trouvé des difficultés liées aux perturbations saisonnières. Et je pense que pour nous, nous aurons des consultations avec les membres du comité local d'activation des projets et en collaboration avec l'État pour voir comment on peut avancer pour suivre le projet.
Oui, voilà, Monsieur Wirba Alidou, nous avons des petits problèmes de liaison téléphonique. Nous ne sommes plus à mesure de continuer cet entretien ô combien intéressant. Dommage, c'est à cause des raisons techniques. Je rappelle tout de même aux auditeurs que vous êtes conseiller technique principal et coordonnateur du PNUD UNOPS pour l'Est de la République démocratique du Congo. Nous espérons vous avoir très prochainement dans des meilleures conditions techniques pour que tous les auditeurs et d'autres ONG puissent bénéficier de vos conseils, et pourquoi pas pour que d'autres, parce qu'on venait de l'annoncer sur nos antennes, que cette expérience de Kisangani était un bon démarrage, un projet pilote qui vous permettrait d'évaluer si vous pouvez faire la même chose pour le Nord Kivu et le Sud Kivu. Merci encore une fois et bonne année 2005.
Merci beaucoup seulement pour vous informer que l'année 2005 sera une année de microcrédit, donc nous sommes prêts à renforcer nos appuis et partager nos expériences avec d'autres bailleurs ou d'autres intervenants nouveaux dans le secteur. Je vous remercie beaucoup, Radio Okapi.
Merci, au revoir. Aujourd'hui, Action, on va finir avec notre émission d'aujourd'hui. Notre dernier sujet, c'est autour de la réduction de la pauvreté à Kananga, notamment. Il y a quelques jours, nous faisions allusion à une récente étude qui avait démontré que les habitants de Kananga vivent dans une extrême pauvreté. Parmi les raisons évoquées, on cite la forte bureaucratie à Kananga et le manque d'initiatives locales. Pourtant, certains Kasaïens refoulés du Katanga développent plusieurs initiatives locales de développement à la différence des originaires de Kananga ou de ceux qui sont restés longtemps à Kananga. On a cherché à savoir pourquoi. On va faire un coup de projecteur sur les initiatives qui se développent à Kananga. Avec vous, Julien Nyamoni. Julien, bonjour. Julien?
Bonjour Walter, bonjour à tous. Ainsi que je le disais il y a quelques jours sur ces mêmes antennes, Walter, il faudrait rappeler que Madame Elisabeth Kankou, que nous avions interviewée lors de la validation des résultats des travaux sur la réduction de la pauvreté au Kasaï occidental, plus précisément à Kananga, tous ou presque sont d'accord sur une chose, les habitants de la ville de Kananga cèdent un peu plus à la paresse. Et c'est ce que Mme Elisabeth Kankou a affirmé. Peut-être c'est l'existence d'une importante bureaucratie, ce qui est vrai par ailleurs. Seulement voilà, une nouvelle impulsion a été donnée par les refoulés venus du Katanga. À ce sujet, justement, il y a bien des choses qui n'existaient pas dans la ville qui, aujourd'hui, sont présentes à la faveur de l'arrivée de nombreux refoulés au Kasaï occidental. Les exemples dans ces cas sont les gens. On peut donc citer dans la foulée, notamment, la présence importante des ajusteurs qui vous fabriquent de portails métalliques, les portes, les antivols et tout autre chose. Ce sont des choses qui n'existent presque pas dans la ville de Kananga. Pour avoir, par exemple, à l'époque des antivols, il faut peut-être avoir une relation avec un ajusteur de la SNCC, la Société Nationale de Chemin de Fer du Congo. Je peux encore citer ici la fabrication de briques cuites. Cela n'existait pas ici à Kananga, mais l'arrivée de nombreux refoulés a suscité deux besoins de logements. Conséquence, les briques cuites sont fabriquées ici sur place, ce qui permet évidemment de construire à moins cher, au-delà de ce que les Belges ont laissé. Kananga est en pleine expansion. Vous savez que le ciment coûte quand même très cher ici, plus ou moins 22$ pour un sac de 50 kilos. Cela veut dire que ce n'était pas facile de construire dans cette ville, mais une brique cuite coûte entre, je dirais, 25 et 40 francs congolais, selon la saison de pluie ou sèche. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Avantage, il y a moins, ou je dirais, il y a de moins en moins de procès liés aux immeubles, comme on le voyait dans les années 80.
Mais voilà, Julien, est-ce que quand même l'autorité provinciale encourage ce type d'initiative locale qui n'existait pas avant?
Bien évidemment, nous avions parlé dernièrement de la conférence socio-économique de la province du Kasaï occidental. Cette conférence avait permis justement à toutes les forces vives du Kasaï occidental de faire un état de lieu dans tous les secteurs de la vie nationale. Vous comprendrez donc que de telles initiatives exigent l'implication des autorités. Donc, j'imagine, dans le cas du Kasaï occidental, ces soutiens ne manquent pas totalement. Je pense que les autorités doivent effectivement s'impliquer dans le processus de développement de la province, et sinon, pourquoi initier de telles conférences? Le problème se pose peut-être en termes de financement, c'est-à-dire des microcrédits qui peuvent être, je dirais, octroyés pour lancer plusieurs activités qui sont porteuses de richesses. C'est ce qui fait défaut de mon point de vue ici au Kasaï occidental. Et je dirais, ce ne sont pas les services publics qui doivent financer et tous les projets pour ces initiatives. C'est ce qui fait défaut de mon point de vue ici au Kasaï occidental. Et je pense que cela ne relève pas des services publics. Reste encore à savoir si ces crédits sont octroyés, les bénéficiaires seront à même de les rembourser.
Voilà, on vient de faire allusion tout à l'heure à ces microcrédits qui avaient été octroyés à trois ONG, notamment dans la province orientale, qui interviennent à Kisangani. C'était un projet pilote au niveau du PNUD UNOPS, et au regard des résultats obtenus, en tout cas 2 sur 3 ont réussi, dont une avec 100% et puis une autre 72%. C'est pas mal comme résultat au niveau de la province orientale. L'expérience du PNUD sera, si vous voulez essayer au nord Kivu et au sud Kivu, qui sait que peut-être un jour le Kasaï occidental pourra connaître la même expérience. Mais revenons à vous, Julien. Ceux qui passent de temps en temps par Kananga disent que ce sont les refoulés du Katanga qui tiennent le secteur commercial actuellement à Kananga. Vous qui vivez sur place, quel est votre avis? Est-ce que vous êtes du même avis par rapport à ça?
Je dirais oui, mais avec aimer, dans la mesure où moi-même, je n'ai pas la maîtrise du secteur. D'après ce que je sais, c'est que le plus grand commerçant, permettez-moi l'expression, sont venus effectivement du Katanga. Bien évidemment, ceux qui habitaient déjà ici n'ont pas croisé les bras. Au contraire, ils sont entrés dans la danse et travaillent d'arrache-pied et très bien. C'est ce qui fait que le centre commercial de Kananga est très fréquenté. On sent effectivement la vie ici.
Voilà, cela crée une sorte d'engouement, une compétition, une concurrence à la loyale, j'espère. On va peut-être avoir un peu plus de détails avec un opérateur économique, un gérant des établissements au niveau de Kananga. On appellera tout à l'heure André Kabangu, administrateur gérant des établissements Combusca, c'est-à-dire Congo Business Kananga. Merci beaucoup, Julien, et à très bientôt. Ok Pierre Sion, nous attendons notre invité qui va intervenir en direct depuis Kananga. C'est un opérateur économique. Nous sommes en train de parler, d'évoquer quelques initiatives de développement qui foisonnent actuellement à Kananga et ne sont pas très nombreuses. C'est là consécutivement ou comparativement, si vous voulez, à cette étude qui a été réalisée à Kananga sur l'état de pauvreté. L'étude a conclu à ceci que les habitants de Kananga vivent dans une extrême pauvreté. Nous avons reçu un message SMS d'un auditeur dont le numéro est 81-000-2908, qu'il a envoyé par Vodacom évidemment. Et il me l'a envoyé sur action@radiocapi.net. Il est à Isiro. Il s'appelle Cyril. Il voudrait demander c'est quelle sorte de souffrance que l'on déplore à Kananga. Nous espérons que notre invité va y répondre tout à l'heure, dès que ça sera possible. Le temps pour nous de vous rappeler ce que notre confrère Julien Lamoni nous a confirmé presque, que les opérateurs économiques les plus en vue à Kananga sont actuellement ceux qui avaient été refoulés du Katanga il y a quelques années. Ils ont développé certains services comme la fabrication de portails métalliques, les portes, les antivols, des choses qui n'existaient pas à Kananga avant qu'eux ne reviennent, que par exemple avant leur arrivée, pour avoir des antivols, il fallait recourir au service d'un ajusteur de la Société nationale des chemins de fer du Congo. On a cité aussi la fabrication des briques cuites, qui est une activité qui n'existait pas encore à Kananga. Mais donc avec l'arrivée de nombreux refoulés, cela a suscité des besoins de logement. Conséquence, les briques cuites commencent à être fabriquées sur place à Kananga, ce qui permet, selon notre confrère Julien Nyamoni, de construire à moins cher, parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de maisons qui sont à Kananga avaient été construites à l'époque belge. J'ai rappelé tout à l'heure que Kananga, c'est l'ancienne Luluabourg, c'était prévu que ce soit la capitale d'ailleurs de la République démocratique du Congo. Une des constitutions qui avait été faite d'ailleurs, avait été faite là-bas, vous rappelez la constitution des Luluabourg, ça fait partie de l'histoire politique de notre pays. Nous parlons économie, cette fois avec les initiatives locales. Nous avons en ligne depuis Kananga M. André Kabangou. Bonjour.
Bonjour Walter.
André, vous êtes administrateur gérant des établissements Combusca, Congo Business Kananga. Depuis quand cette entreprise existe?
Oui, M. Walter, c'est depuis le 15 juillet 1993 que j'ai foulé les sols Kananga ici venant du Katanga.
Alors, vous êtes venu du Kananga, donc vous êtes dans le groupe de ceux qui sont venus du Katanga. Quand vous êtes arrivé à Kananga, au point de vue du développement économique, qu'est-ce que vous avez constaté?
Non, au début, vous savez, quand nous sommes venus ici à Kananga, nous avons trouvé Kananga comme une ville morte parce que Kananga venait de connaître ses trois pillages. Alors, le grand qui était ici à cette période, si je peux les citer, Oliveira Santos, Simis, Noguera étaient partis et Kananga était abandonné. Alors quand nous sommes venus ici, et les facteurs sociaux nous ont permis à ces crédits de donner...
Je vous soumets à quelques questions. Déjà, Pierrot Camon et qui nous appelle de Lubumbashi. C'est un auditeur qui appelle très souvent. Il va falloir lui envoyer un bon cadeau. Il pense si la CADESCO existe encore, que faut-il pour contribuer au développement de la province du Kassai occidental? André Kabangou. Non, c'est pas possible. Dommage. Dommage pour Cyril qui a appelé de Isiro. Dommage pour Pierrot Camon qui a posé cette question intéressante. Dommage parce qu'on a essayé de re-avoir André Kabangou qui, rappelons-le, a créé son entreprise Congo Business Kananga
aussitôt refoulés du Katanga depuis 93 et qu'ils ont eu les stimulus. Ça, c'est l'information principale, la première qu'on a entendue de lui, que le fait qu'ils aient rencontré Katanga, qui avait l'image d'une ville morte, cela leur a donné envie de faire beaucoup de choses. Et depuis 93, plus de 10 ans aujourd'hui, ils ont travaillé d'arrache-pied. Aujourd'hui, ça commence à revivre.
Et puis, Action se quitte dans quelques instants. Laissez-moi vous rappeler que des maisons de transfert de fonds facilitent le transfert d'argent à travers tout le pays. Chacune de ces maisons propose un taux à ses clients. Le prix, vous le savez, de 3% pour Soficom, 6% pour Western Union et bien d'autres gens. Dans le Bandundu, c'est 10% parce qu'il y a monopole chez certains opérateurs. Le PNUD avait octroyé des microcrédits à un groupe d'ONG qui s'engagne. Le bureau diocésain de développement a remboursé 100% et avant terme. De nouvelles du PNUD, ils vont réitérer la collaboration avec les ONG qui ont réussi. Et puis les habitants de Katanga qui vivent dans une extrême pauvreté, parmi les raisons évoquées, on cite la forte bureaucratie à Katanga et le manque d'initiatives locales. Les refoulés du Katanga ont brillé par des initiatives louables. Ça se développe à Katanga. Voilà tout. Merci de nous avoir suivis. À bientôt, demain, 9h02, pour de nouvelles aventures dans vos vies.